Je me suis livré cette semaine à un exercice difficile. J'ai écouté une de mes prédications. C'est pas quelque chose de facile parce qu'on a, tous une idée des prestations qu'on peut avoir, de ce qu'on dit. En tout cas, moi, quand je me parle, je me comprends. Et bien, quand on écoute, qu'on ne fait rien d'autre que s'écouter, qu'écouter un enregistrement, sautent aux oreilles toutes les imperfections et tout un tas de tics de langage qui énervent profondément. Je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, c'est un exercice peu amusant. En lisant le texte que nous allons voir, sur lequel est basée la prédication de ce matin, j'ai repensé à cette expérience parce que c'est un peu ce dont parle Paul, des imperfections de la prédication. Nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, le début du chapitre 2 à partir du verset 1. Donc, 1 Corinthiens, nous continuons la série de prédications que nous faisons sur ce livre, cette lettre de Paul à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Voici ce qu'il est écrit. Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Jusqu'ici notre lecture. J'aime bien lorsque nous prenons un texte le dimanche matin, regarder en deux temps. D'abord, comprendre ce que dit l'auteur et ensuite ce qu'il a à nous dire à nous. Ce n'est pas toujours la même chose. C'est le même texte, mais il faut se souvenir quand on prend un texte que l'auteur l'a envoyé à des destinataires précis, qui avaient des soucis précis. Et parfois, c'est quand même important de replacer ça dans ce contexte pour mieux comprendre ce qu'il avait à dire à ces gens-là. Donc, qu'est-ce que dit Paul aux Corinthiens? Il leur rappelle ce qui s'est passé quand il est arrivé à Corinthe. « Je suis venu », c'est au verset 1. Paul était dans une démarche missionnaire. Dans beaucoup de Bibles, à la fin, vous avez des cartes du bassin méditerranéen avec les voyages de Paul. Trois voyages. Il a parcouru la Méditerranée à chaque fois, le contour de la Méditerranée. Il est allé à beaucoup d'endroits, à prêcher la parole partout où il est passé et à laisser derrière lui des églises qui se sont maintenues. L'église de Corinthe est l'une d'elles. Et c'est par Paul que le message de l'Évangile est arrivé. Ce passage à Corinthe, on le retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, versets 1 à 11. Vous pourrez le lire si ça vous intéresse. On trouve Paul à Corinthe, justement, son premier voyage à Corinthe. Cet épisode assez court, dans les Actes des Apôtres, 11 versets sur la longueur de ce livre, arrive après un épisode assez célèbre, qui est la prédication qu'il a à Athènes. Je ne sais pas si vous avez en tête cette prédication qu'il fait à Athènes. Il arrive à Athènes et il fait une prédication où son introduction, l'accroche qu'il a, elle est sur le Dieu inconnu. Athènes, qui était une ville avec toutes sortes d'hôtels, de temples à plein de dieux, et il y avait même un hôtel à un dieu inconnu. Et Paul arrive là et il dit : je suis l'envoyé de ce dieu inconnu, je vais vous parler de lui. Cette prédication est fameuse. Ses résultats sont mitigés, les résultats de cette prédication. D'un côté, il y a quand même des personnes qui ont choisi de suivre le Seigneur suite à cette prédication, des personnes qu'on retrouve par la suite, Denis et l'Aréopagite, Damaris, des chrétiens qui ont été solides par la suite. Mais la plupart des auditeurs sont partis moqueurs, donc des résultats mitigés. Et c'est assez craintif que Paul arrive à Athènes, craintif à tel point que Dieu a besoin de le rassurer. Et dans ce passage de Actes 18, on voit Dieu qui, dans un songe, dit à Paul : ne crains rien. Paul était vraiment mal quand il est arrivé à Corinthe, remis en question. Voilà. Sinon, pour terminer le tableau, Paul restera à Corinthe 18 mois. Et quand il partira, il y aura cette église qui restera assez longtemps pour que Paul lui écrive plusieurs lettres, dont deux qui sont dans notre Bible et qui font partie de la parole de Dieu. Mais donc, quand il est arrivé à Corinthe, il était dans un état de crainte et de tremblement. C'est ce qu'il écrit au verset 3, crainte et tremblement. Je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est difficile à imaginer parce que quand je lis les écrits de Paul dans la Bible, je vois quelqu'un qui a l'air sûr de lui, qui affirme des choses solides, il les affirme avec force et il a raison de le faire parce que quand je les lis, ça parle à mon cœur. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui est peu sûr de lui. Et cette expression, crainte et tremblement, ça exprime à la fois de la peur. Il ne se sentait pas bien. Il arrive dans cette ville avec de la crainte, mais également de la faiblesse. Il se sent faible, peu armé pour faire ce qu'il a à faire. Cette faiblesse, c'est parce qu'il n'a pas de force sur lesquelles s'appuyer, pas de points forts sur lesquels il peut s'appuyer pour se rassurer. L'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, repose sur le discours oral. C'est une parole qui est transmise de croyant en croyant, une bonne nouvelle qui est annoncée et auquel l'auditeur choisit de croire ou de ne pas croire. Mais comme dans toute prestation orale, on peut avoir des forces. Il y a des techniques, des choses qui plaisent à l'auditoire. Et à Corinthe, ils sont très branchés sur le sujet. Ils sont friands de ce qu'ils appellent la sagesse du langage. On l'a vu dans les précédentes prédications sur ce livre de 1 Corinthiens. La sagesse du langage, c'est un discours à la fois son contenu qui est sagesse, des choses sages, cachées, qui sont révélées aux auditeurs, et puis à la fois aussi toute une technique oratoire qui plaît, qui fait mouche auprès des auditeurs, qui leur ouvre les oreilles et qui les captive. C'est ça la mode à Corinthe, et l'Église a du mal à être complètement hermétique à cette mode. Et Paul a besoin de mettre les points sur les i au verset 1. je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je ne me suis pas inscrit dans cette course rhétorique au plus beau discours pour vous séduire, comme c'est fait chez vous. Alors avec quoi est-ce que Paul est venu ? Avec quoi ? On le trouve verset 2. Il n'est venu avec rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, c'est une expression qu'on a déjà vue au chapitre 1, verset 23, pour être précis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication où je disais que le monde se divisait en deux catégories. La sagesse des hommes d'un côté et la puissance de la croix de l'autre. Et Paul parlait de Jésus-Christ crucifié comme la quintessence du message de la puissance de la croix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'est venu avec rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Il n'est pas vu avec Jésus-Christ tout court, mais Jésus-Christ crucifié. Il n'est pas venu présenter Jésus comme un modèle de vie, comme un maître à penser, mais comme le crucifié. Il a choisi d'orienter son discours, sa prédication, sur Jésus-Christ crucifié. Quand il dit crucifié, il veut dire crucifié et ressuscité. On le sait parce qu'on le retrouve plus loin dans 1 Corinthiens, dans le même livre, au chapitre 15, où il associe la crucifixion avec la résurrection. Je vous lis le passage au chapitre 15, verset 3. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. » Voilà la prédication du Christ crucifié. L'homme est pécheur. Nous le sommes tous. Le péché, c'est la mauvaise orientation de notre cœur, cette orientation qui nous éloigne de Dieu. C'est le mal que l'on fait. Et Dieu nous propose de nous racheter. Pour cela, Jésus-Christ est venu, il est mort, pour payer le prix de notre péché, le prix de notre faute. Après sa mort, au troisième jour, il est ressuscité pour offrir à ceux qui le suivent une nouvelle vie, une vie éternelle, réconciliée avec Dieu. Voilà Jésus-Christ ressuscité. Voilà ce qu'entend son auditoire. Ce n'est pas forcément ce qu'attend l'auditoire de Paul quand il passe dans le monde grec et à Corinthe en particulier. Son auditoire cherche la sagesse, des écoles de sagesse, des écoles de pensée, des gens brillants qui nous donnent l'impression d'être intelligents quand on les écoute. Et lui ne vient rien d'autre qu'avec rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Et s'il le fait, c'est pas parce que il n'est pas capable de faire autre chose. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de jouer sur le même tableau que les sages grecs. En tout cas, quand je lis ce qu'il écrit, je pense que Paul était quand même quelqu'un qui était capable de structurer sa pensée, d'avoir un discours construit, facile à suivre. Mais s'il ne le fait pas, c'est par choix. C'est ce qu'il dit au verset 2, « J'ai jugé bon ». Il a jugé bon, c'est en toute conscience qu'il a choisi de limiter sa prédication à Jésus-Christ crucifié. Parfois, en dire trop, c'est se disperser. Parfois, quand on élargit le sujet, quand on parle de tout, Finalement, chacun entend ce qu'il veut. Et le centre du discours ou de la prédication n'est pas forcément entendu par tous. Et en tout cas, Paul a choisi de se limiter au centre de sa prédication, au centre du message. Il n'a pas voulu utiliser les techniques de rhétorique comme les Grecs, il n'a pas voulu utiliser les miracles comme ce que demandaient les Juifs. Il s'est arrêté à la prédication de Jésus-Christ crucifié. Et pour l'aider dans cette prédication simple, il a reçu l'aide de la démonstration de l'esprit de puissance. C'est écrit au verset 4. Cette expression, elle n'est pas forcément très claire. Moi, j'y vois, et les commentateurs que j'ai lus y voient également, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui vient en allié, qui vient poursuivre le travail de la prédication. Alors, qu'est-ce que c'est que cette puissance du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Je ne crois pas qu'il s'agisse de miracles qui accompagnent la prédication. Justement, c'est un des reproches qui est fait à Paul, une des demandes qui lui est faite, où sont les miracles? Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte des miracles, mais Paul n'en fait pas état, ce n'est pas là-dessus qu'il appuie sa prédication. Je ne pense pas non plus que cette puissance du Saint-Esprit soit les dons spirituels qui sont distribués aux croyants. Paul est conscient du danger que peuvent avoir les croyants de trop mettre leur confiance sur ces dons qu'ils ont reçus. Donc, je ne pense pas que ce soit ça qu'il appelle puissance du Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est la conviction que le Saint-Esprit donne à ceux qui écoutent. Le Saint-Esprit qui convainc que ce message de la croix, cette information, Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, c'est le Saint-Esprit qui convainc que cette affirmation est vraie. C'est lui qui permet de croire quand on se jette dans le vide en disant « Seigneur, je veux croire, viens m'aider à croire. » Ainsi, la foi des Corinthiens ne repose pas, au verset 5, sur la sagesse des humains, mais elle repose sur la puissance de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Elle ne repose pas sur l'habileté du prédicateur, même si c'est le super apôtre Paul. Tout ce qui repose sur l'habileté d'un homme, on peut certainement trouver un autre homme qui vient par la suite et qui est plus habile et qui remet en question ses fondements. Finalement, ce qui repose sur la technique humaine, c'est fragile. Mais ce qui repose sur la puissance de Dieu, ça, personne, aucun homme ne peut l'attaquer. Et c'est là-dessus que repose la foi des Corinthiens, sur la puissance de Dieu qui est venue transformer cette prédication simple, Jésus-Christ crucifié, cette folie pour les hommes qui est venue le transformer en foi qui s'est plantée, qui s'est développée pour faire cette église dans laquelle sont les Corinthiens. Voilà ce que dit Paul dans ce texte à son auditoire, qu'il leur rappelle que sa prédication était centrée sur Jésus-Christ crucifié et sur rien d'autre. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il besoin de leur rappeler? Si vous étiez là sur les prédications précédentes sur 1 Corinthiens, vous en avez peut-être une idée. Dans cette église, il y a des divisions qui sont là, qui germent, qui grandissent. Les Corinthiens étaient dans une course à la sagesse. Il y avait différentes écoles, différentes parties, avec des penseurs qui essayaient de construire une théologie sur les mystères de Dieu. Et chacun essayait de se positionner. Moi, je pense comme un tel, comme tel autre. Et c'est ça, c'est ce qui motive la lettre de Paul, de leur dire « Cessez de vous diviser, rassemblez-vous, Christ est un seul, il ne saurait être divisé. » Voilà ce qu'il leur rappelle au début de son épître. Christ n'est un et ne saurait être divisé, ça pose le cadre. Mais derrière, il développe et il leur montre que, même sans regarder ce cadre, avec cette course à la sagesse, ils font fausse route. La course à la sagesse, elle est contraire à l'évangile, parce que l'évangile, c'est une folie pour les hommes. J'ai rappelé le discours de Paul à Athènes. Hein. Paul avait toute l'attention de son auditoire. Tout le monde l'écoutait. Et à un moment, il a parlé de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et là, tout le monde a dit, « Oh, c'est bon, on va rentrer, on t'écoutera une prochaine fois sur ce sujet. Salut. » J'en rambe un peu, mais c'est à peu près ce qui est écrit. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. La crucifixion, la résurrection, et le fait que ce soit suffisant pour tisser une relation avec Dieu, c'est une folie pour notre monde. C'est pour ça qu'il leur rappelle bien comment il est venu, pour leur rappeler que toute leur foi repose là-dessus et que cette course à la sagesse est inutile. Il invite à cesser cette course à la sagesse, rechercher quelle est le meilleur maître à écouter, quelles sont les meilleures idées qui leur permettront de briller. Il rappelle l'exemple qu'il a voulu placer au milieu d'eux en faisant le choix de limiter sa prédication à la proclamation de la croix. Et s'il leur rappelle cela, je crois que c'est aussi pour qu'ils renouvellent leur engagement, leur attachement envers ce qui est le plus important, le Christ crucifié. Voilà donc ce que dit Paul aux Corinthiens et à nous. Qu'est-ce qu'il nous dit à nous? Ce texte, cette lettre aux Corinthiens, fait partie de la parole de Dieu, qui s'adresse aux hommes de tous les siècles, de tous les pays, de toutes les cultures. Qu'est-ce qu'elle nous dit à nous, à Clermont-Ferrand, en 2014? Je crois que nous ne sommes pas très éloignés de ce contexte. Chez nous, c'est toujours pareil. La croix reste une folie. On peut parler de Jésus-Christ autour de nous. On peut en parler comme d'un type cool, un homme qui faisait du bien autour de lui, qui remettait les puissants en place et qui accueillait les exclus, qui redonnait la valeur à chacun, à chaque homme. Et en faisant ça, nous aurons un auditoire. Notre société a soif de cette justice. Et c'est vrai, Jésus l'a fait. Nous pouvons parler également du protestantisme comme d'une religion qui a su rejeter le poids de la tradition, qui a su revenir vers une fidélité à la parole, qui sait réfléchir pour comprendre intelligemment la Bible et ne pas suivre des traditions. Nous aurons un auditoire. Notre société aime qu'on remette en question. Mais parlons de Jésus, mort sur la croix pour enlever le péché des hommes. Tout de suite, ça intéresse moi. Et il me semble que ce texte est donc d'actualité pour nous aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. D'actualité, déjà pour le prédicateur. Nous sommes plusieurs prédicateurs dans cette église. Et en lisant ce texte, il me semble que Paul nous rappelle avec urgence de toujours laisser la place à Jésus-Christ crucifié. Notre époque est marquée par la communication. Nous sommes hyper exposés à la communication. Il y a les médias classiques qui nous inondent, la télévision, la radio, la presse papier, tous les dépliants que nous pouvons recevoir dans nos bibliothèques, dans nos boîtes aux lettres. Mais il y a aussi Internet qui regorge de contenu et où, pour se distinguer, il faut que ce soit le plus attrayant possible. Et puis, la communication, elle envahit tout. On la retrouve dans les entreprises qui, maintenant, presque toutes aiment avoir des grands messes où on va donner les directions, communiquer sur l'entreprise, sur ses objectifs, sur ses résultats, communiquer auprès de ses salariés, auprès de ses actionnaires, auprès du public. On communique tout le temps. À tel point que c'est devenu un métier. Il y a des gens dont c'est le métier, la communication. Ce n'est pas le discours, c'est la communication. Venez avec votre discours, ils vous aideront à le mettre en forme pour communiquer. Nous sommes habitués à recevoir de l'information sous toutes sortes de formes. Et au milieu de ce télescopage, eh bien, on essaye d'être le plus attractif possible pour être écouté au milieu de ce brouhaha. On essaye d'allier l'oral avec le visuel. On essaye d'avoir un format court pour ne pas ennuyer, d'avoir quelque chose de structuré, de percutant pour marquer les auditeurs. Ce sont des bonnes choses qui peuvent être utilisées dans la prédication. Si la prédication s'écoute facilement, tant mieux. Il vaut mieux attirer que repousser son auditoire. Mais attention à ce que ce ne soit pas là le but. Attention à ne pas passer plus de temps sur la mise en forme du message et perdre son contenu. Je parle de la forme, mais sur le discours également, sur le contenu également, nous sommes interpellés. Quand on parle dans le monde, en dehors de la prédication, quand on a quelque chose à communiquer, une idée à faire passer, on va essayer de partir de valeurs communes entre nous et notre auditoire. On va créer un enchaînement, qu'on va essayer, en essayant de mettre en évidence une logique, pour entraîner notre auditoire jusqu'à une conclusion. Le but, c'est d'emmener les gens vers notre conclusion. Mais quand on prêche, parle de la parole de Dieu, de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose dont on ne comprend pas tout, qui reste un mystère, quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à mettre en pratique, et pourtant C'est de ça dont on vient parler. Surtout quelque chose qui choque. Jésus-Christ crucifié, c'est pas quelque chose qui plaît. Et pourtant, sans Jésus-Christ crucifié, impossible d'être réconcilié avec Dieu. On peut être tenté de parler de choses attractives, de mettre en valeur telle facette de Jésus, de creuser la psychologie des personnages bibliques. Mais attention, Jésus-Christ crucifié doit être là, présent, au centre de la prédication. Et du coup, si, comme Paul, quand on prêche, on n'est pas rassuré, c'est certainement bon signe. C'est qu'on ne se confie pas sur nos propres forces, mais qu'au contraire, on reste démunis. Le jour où tu es rassuré, serein, ce n'est peut-être pas bon, c'est peut-être que tu commences à te reposer sur ta technique et non sur la puissance de Dieu. Alors, régulièrement, humblement, le prédicateur est invité à méditer la parole de Dieu pour y rester fidèle tant sur le message que sur la forme. Alors, et seulement alors, il peut y mettre tout son art pour intéresser son auditoire, pour lui ouvrir les oreilles, pour qu'il cherche la voix de l'Esprit de Dieu. Car la prédication repose encore aujourd'hui sur Dieu. Ce n'est pas le prédicateur habile qui convainc. Il informe de l'œuvre divine et il laisse l'Esprit convaincre. Voilà ce que le prédicateur peut retenir de cette prédication, mais je crois qu'elle s'adresse aussi à nous tous, aux auditeurs que nous sommes. Je crois qu'il nous faut accueillir avec une certaine bienveillance les prédications que nous recevons. Elles ne sont pas des numéros techniques, des discours bien ficelés, mais elles font appel à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Je lisais un article sur Internet cette semaine, un article amusant intitulé « 10 manières de bien réagir à une mauvaise prédication ». Si ça vous intéresse, vous chercherez sur Internet, je ne vais pas citer les 10 manières, mais il y avait des choses intéressantes comme chercher à retenir ce qu'il y a de bon dans une prédication, même mauvaise. Et je pense que dans le cadre du texte que nous étudions, nous pouvons rechercher Jésus-Christ dans toute prédication. Nous pouvons nous concentrer sur le texte biblique qui est prêché, derrière le discours raté, rechercher la parole de Dieu. Une autre manière de bien réagir, c'est de prier pour le prédicateur. Pendant la prédication, si c'est vraiment mauvais, mais surtout après et fidèlement. Et si cette prédication est vraiment critiquable, alors l'article invitait, et je crois qu'il a raison, à en parler avec quelqu'un dans l'Église qui peut changer quelque chose à cette situation. Clairement, un ancien de l'Église. Sinon, si on en parle juste entre nous, ça devient de la médisance, critiquer juste pour critiquer, juste pour passer le temps. Mais je vais revenir sur deux points. Tout d'abord, la prière pour les prédicateurs. Prions pour nos prédicateurs. Vous avez entendu les exigences qui reposent sur le prédicateur. L'attention qu'il a apportée pour ne pas passer à côté du message de Jésus-Christ crucifié. Alors qu'il est naturel de vouloir développer des techniques pour pouvoir se reposer sur ses propres forces, sur quelque chose qu'on maîtrise. Prions pour nos prédicateurs aussi régulièrement qu'ils prennent la parole pour édifier notre foi. Chaque semaine, nous avons une prédication. Prions-nous chaque semaine pour le prédicateur. Prions pour lui qu'il ne soit pas tenté de se reposer sur ses forces, sur sa technique, sur ce qu'il marche, mais qu'il se repose sur Dieu, qu'il puisse être fidèle à son message, même lorsque ce message est une folie. Priez pour les prédicateurs, mais il y a aussi un travail actif, je crois, à faire de la part de l'auditeur. N'attendons pas du prédicateur qu'il nous convainque, qu'il fasse tout le travail. Ce n'est pas le prédicateur qui nous convainc, c'est l'Esprit qui travaille en nous. Alors, ouvrons-nous à l'Esprit. Prions-le pour qu'il nous éclaire sur ce que nous entendons, pour qu'il nous montre ce en quoi c'est applicable à notre vie, ce que nous devons changer dans notre vie pour nous y conformer. Restons à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. N'oublions pas que c'est la puissance de l'Esprit qui convainc. Et l'auditeur a à faire un effort pour discerner la puissance de l'Esprit en lui, pour accepter le travail de l'Esprit en lui. Recherchons donc, dans la prédication que nous entendons, Jésus-Christ crucifié. Et si le prédicateur cherche lui aussi à mettre Jésus-Christ crucifié en évidence, alors je n'ai pas de doute qu'avec l'œuvre de l'Esprit, ses efforts conjoints se rencontreront et que l'Esprit pourra travailler en nous. Au moment de conclure, que retenir ? Aux Corinthiens qui recherchent la sagesse pour se différencier des autres, pour les surpasser, Paul rappelle que ce qui a changé leur vie, ce n'est pas un discours de sagesse, c'est une simple information. La croix de Jésus-Christ, l'homme pécheur, mauvais, qui ne peut se réconcilier à Dieu qu'à travers la croix de Jésus-Christ. Sans croix, il n'y a plus d'évangile, plus de salut. Pour nous aussi, cette parole est importante. Prédicateur, à quoi t'attaches-tu ? À des outils ? À une façon de faire ? À une bonne idée, un angle d'attaque pour relire la Bible ? Place inlassablement Jésus-Christ crucifié au centre de ta prédication. Auditeur, à quoi t'attaches-tu ? À un pasteur, un prédicateur que tu trouves habile, brillant ? À des habitudes d'écoute ? À un discours que tu aimes entendre ? Recherche inlassablement Jésus-Christ crucifié dans les prédications que tu écoutes. Et si ce n'est pas fait, écoute la voix de l'Esprit qui t'invite à le suivre, à suivre Jésus-Christ. Revenir à Jésus-Christ crucifié,